Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui, mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Surtout en ces temps un peu étranges de pandémie, confinement, etc. Eh bien, plus que jamais, on a besoin d'imaginaire et d'érotisme, alors je ne vais certainement pas vous laisser tomber, je suis là au rendez-vous chaque semaine avec vous. Cette semaine, j'ai décidé de vous lire des extraits de deux nouvelles tirées du recueil de nouvelles érotiques qui s'appelle One More Time, qui est en fait le recueil de nouvelles du prix de la nouvelle érotique, édition 2019. Alors là, vous dites de quoi tu parles, Charlie? Alors, petit récap. Le prix de la nouvelle érotique, c'est quoi? C'est en fait un prix littéraire qui est organisé par une asso qui s'appelle Les Avocats du Diable. Chaque année, ils proposent un espèce de défi littéraire. Tous les gens qui s'inscrivent, en fait, ont une nuit pour écrire une nouvelle érotique avec un thème imposé et un mot final imposé. Il y a une nouvelle qui gagne, il y a un prix de 3 000 euros à gagner, plus une résidence d'écriture, et ils sélectionnent également une dizaine de nouvelles qui vont permettre de composer le recueil du prix de la nouvelle érotique de l'année. Alors, pour ce recueil, One More Time, puisque ça s'appelle comme ça parce que c'était le thème imposé, il y a eu non pas une, mais deux nouvelles lauréates, et j'avais déjà lu ces nouvelles. Je mettrai le lien du podcast dans l'article qui présente la lecture du jour, si vous voulez les réécouter. Mais là, j'ai décidé de lire deux autres nouvelles qui font partie du recueil. Pourquoi? Parce que le 5 novembre, normalement, si tout va bien, si c'est pas tout chamboulé à cause du Covid et de tout le bordel qu'il y a autour, normalement, il y a le recueil de 10 nouvelles, d'une dizaine de nouvelles du prix de la nouvelle érotique édition 2020. Donc, je me suis dit que, histoire de se remettre en jambes, c'était pas plus mal. Et en plus, le hasard fait bien les choses. La thématique du prix de la nouvelle érotique, du recueil du prix de la nouvelle érotique de 2019, c'est One More Time. One More Time, bah du coup, il y a pas mal de nouvelles qui parlent de la mort, du rapport entre mort et érotisme, etc. Et qui parlent aussi du fait qu'avant qu'il soit trop tard, il est peut-être temps d'oser, quoi. Alors, j'ai choisi deux nouvelles qui m'ont particulièrement touchée. J'ai adoré Constellation de Anaëlle Verdier, que je vais vous lire dans un instant. Et j'ai aussi énormément aimé En odeur de sainteté de Céline Saint-Charles, qui nous raconte quand même que, sans déconner, vous croyez pas qu'on a autre chose à faire que de perdre du temps et de s'empêcher? Alors, je trouvais qu'en ces moments où bah, il y a plein de choses qu'on peut plus faire, puisqu'il y a un confinement avec le Covid et tout le bordel, peut-être qu'il est temps d'arrêter de s'empêcher, nous, à l'intérieur de nous, de fantasmer, d'imaginer, pour des raisons, des empêchements, au final complètement stupides. Alors, osons, imaginons. Et moi, je vous lis, je commence par la nouvelle d'Anaëlle Verdier qui s'appelle Constellation. Quand ils m'ont appelé pour identifier le corps, mon monde s'est écroulé. Son visage figé dans sa dernière expression, ses membres inertes qui ne me serreraient plus jamais, ne m'effleureraient plus jamais. Ses bras inutiles en cet instant où j'avais le plus besoin d'être étreinte. L'absence de son souffle, que je n'entendrai plus, de son regard, qui ne me désirerait plus. Mort, partie avec lui. À la maison, il était partout. Ses vêtements en boule de la veille, ses poils de barbe encore accrochés au lavabo, les traces de son parfum encore dans l'air et le lit froissé de notre nuit. Je n'avais pas idée. Comment aurais-je pu savoir que ce serait la dernière? Oh, comme je l'aurais étreint si j'avais su! Je ne me souvenais même plus de cette nuit. Une nuit banale, familière, une nuit de vivant. Je me jetai sur les draps, les arrachai d'un coup du matelas, saisis le tas de vêtements, m'en servis pour essuyer le lavabo et courus enfouir le tout dans la poubelle. Ça ne rentrait pas. La boule était trop grosse. Je forçais, insistais, cela céda. Je nouai les liens du sac, le jetai dans la cage d'escalier. De là, il atterrit dans la benne de l'immeuble. Dans la cuisine, ses bouteilles de bière entamées, son café froid, sa fourchette favorite. Les aimants avec ses mots sur le frigo, tout suivit le même chemin. J'arrachais tous ses vêtements des placards. Il ne devait rester aucune trace de son passage. Je récurais, frottais, nettoyais toutes les surfaces. Le temps n'existait plus, disparu derrière le voile de ma cascade de larmes. Quand je relevais la tête de mes seaux, les mains fripées, le corps en nage, il faisait nuit. J'étais épuisée. La réalité me rattrapa quand je m'allongeais sur le matelas nu. Nu de lui. Sa place hurlait le vide, et le vide m'accusait de l'avoir multiplié. La benne débordait de cartons, de vieux coussins que je dus déplacer pour accéder à mes sacs. Je voulais le premier. Le plastique se déchirait sous mes ongles, s'effilochait pour révéler les traces de ce qui était devenu mon passé, de ce qui avait été jusqu'à ce matin encore si intensément présent. C'est le problème avec le présent quand il est intense. Nous sommes trop occupés à le vivre pour remarquer qu'il est là. Ce n'est qu'après coup que son absence nous rappelle ce que nous avions de précieux. Le premier sac fut le dernier que j'ouvris. Je me repliai sur mon butin et remontai. Je lissai le drap avec minutie. En refaisant le lit, je prolongeai un peu la présence qui n'était plus. Je me blottis contre la boule de ses vêtements et cherchai le sommeil, quelque part entre les effluves de son corps emprisonné dans les draps et la caresse du tissu contre mon ventre. D'angoisse en oubli, j'amorçai une nuit pointillée. « J'ai préparé le repas, » me dit-il. « Tu viens goûter ?» Sur ma langue, une sauce crémeuse, des pointes de curcuma, de cumin. Son regard qui cherche à décrypter mes expressions. « C'est trop fort. » Je bats déjà en retraite. « Non, c'est très bien, » dis-je, en franchissant le seuil de la cuisine. « C'est trop fort !» me crie-t-il pour être sûr que j'entende qu'il sait mes sous-textes. La chambre. La boule de vêtements dans mes mains crispées. Le silence. La nuit. Le réveil. Son réveil. J'avais dormi moins d'une heure. Rêver de lui était une torture que j'étais impatiente de revivre, même si ce n'était que pour retrouver la complicité de notre domesticité. Mais rien ne venait. Le reste de la nuit, je le passais à pleurer, en fixant l'obscurité. Trop épuisé pour évoquer mes souvenirs, pas assez exténué pour sombrer. Indifférente à ma détresse, l'aube s'immissa dans la chambre, se faufila dans le moindre interstice offert à ses coulures. « Je ne viendrai pas aujourd'hui, » annonçai-je à mon bureau. Je raccrochai avant de m'effondrer. Les messages s'empilaient sur mon téléphone. Je ne voulais personne, je ne voulais rien, juste rester allongé dans son parfum. Je relus ses SMS. Le plus récent, je prendrai le pain en rentrant. Lacunaire. Quotidien. Un message qui m'eût réjoui dans tout autre contexte, qui m'avait sans doute réjoui au moment où je l'avais reçu. En remontant le cours de notre histoire textuelle, je souris du sourire amer des histoires perdues, chargé de la nostalgie de ce qui aurait pu être, lourd de savoir que cela ne serait plus. Nous n'échangerions plus sur les résultats du tennis. Il ne m'enverrait plus de photos prises à la dérobée d'un coquelicot surpris sur le bord d'une route, ni de ses grimaces qui lui donnaient cet air gamin qui me désolait et me réjouissait à la fois. Il ne m'enverrait plus les messages de son désir lorsque celui-ci le saisissait, alors que nous étions séparés par le travail et la distance. « Dis-moi ce que tu portes, » commençait-il à chaque fois. « Une jupe. » Comment s'ouvre-t-elle? Avec une ceinture. La verte étroite, celle qu'il faut tirer sur tes hanches et faire couler le long de tes cuisses. Celle-là même. Ton cul tortille quand tu l'enlèves et que tu ne sais pas que je te regarde. Tu me regardes me déshabiller? Et en haut? En haut j'ai un chemisier. Comment s'ouvre-t-il? Avec une ligne de petits boutons. Je ne vois pas. Je ne le boutonne jamais jusqu'en haut parce que sinon il bâille. Ah, et on voit ton soutien-gorge. Oui. Lequel? Celui que tu préfères. Je les aime tous. Déjà, c'est faux. Et celui-ci, tu le préfères. Le gris anthracite. Il te fait de beaux seins tout ronds. Et ses crochets, un délice. Raconte-moi comment tu les détaches. D'abord, je prends le temps de laisser glisser mes mains sur tes seins. Le tissu est épais et un peu rugueux sur la souplesse de tes globes. J'aime ce contraste. Je descends sur ton plexus. Ta peau lisse est presque surprenante après le tissu du soutien-gorge. Je m'y attarde en légère volute, en circonvolution, peau à peau, un effleurement, un survol qui m'amène sur ton dos, que j'agrippe pour te coller à moi et sentir tes seins s'écraser contre mon torse pendant que je t'embrasse. Et pendant que tes mains s'en mêlent à mes cheveux, je glisse un doigt sous l'élastique de tes agrafes et de l'autre, fais sauter les crochets l'un après l'autre. Viens, j'arrive. Il nous arrivait de nous échapper du boulot pour nous retrouver à l'arrière d'un bâtiment ou sur un parking pour une étreinte rapide, passionnée, au plaisir volé. Cela faisait plusieurs mois que nous n'en avions plus pris le temps. Je soupirais. Je n'avais plus la force des émotions. J'étais lasse de m'être vidée à force de larmes, de mon incrédulité, de mon incompréhension et de ma colère. Je reposais le téléphone et fermais les yeux, à la recherche des souvenirs de son corps pressé contre le mien, en quête de sensations marquées dans ma peau comme des cicatrices d'amour, des boursouflures de vie. Il ne m'avait rien laissé de visible. Pas de coups de fouet trop profonds, pas de brûlures de cire. Nos jeux érotiques n'étaient pas de cette nature, et j'en venais à le regretter. Sans la mémoire de la peau, je devais me contenter de celle trompeuse et un rien traîtresse de mon esprit. J'explorais mon corps. Peut-être y avait-il un endroit, une parcelle de moi qui se souvenait de lui, qui n'appartenait qu'à lui, qu'il célébrait, sans que j'y prête attention, un espace qui, lorsque je le toucherais, déclencherait une avalanche d'images, de sensations, de frissons. Nu, agenouillé sur mon tapis, mes bras enroulés autour de mon buste, je suivis les côtes et les crêtes de ma géologie corporelle, en quête des terres où flotterait son drapeau. En vain, partout ce n'était que ma peau, silencieuse, et familière. Plus bas, au creux des reins, la taille, l'intérieur des cuisses où il aimait frotter sa joue et planter ses dents. Après inspection, pas de traces de morsure. Ses lèvres exploraient mon naine, remontaient patiemment le chemin de ma vulve où je recevais son souffle, le grain de sa langue. Je fermais les yeux, invoquais son image. J'avais du mal à visualiser les détails. Déjà, je trouvais difficile de me remémorer la subtilité de ses traits. Je laissais retomber ma main. L'eau bouillante me ramena à la vie, celle qui se cachait dans ma cabine de douche, dans la brûlure de cette peau oublieuse des caresses capables de l'électriser, peau déloyale et indifférente. La vapeur réduisait ma réalité au demi-mètre le plus proche. Dans le miroir, d'un revers de main désembué, je crus à sa présence. Comme un mouvement dans mon regard, un sursaut de mon cœur, un bond de mon corps se retournant vers le mur et les volutes épaisses qui déplaçaient les ombres. J'enfilai une paire de collants et une jupe, le soutien-gorge qu'il préférait, et un haut, simple. Il fallait que je sorte, que j'esquisse quelques pas dans ce monde qu'il n'arpentait plus. J'avais quelques mots à dire à cette réalité devenue hostile, qui volait les amants et pulvérisait les amours sans préavis. La rue vibrait sa frénésie. J'y traînais mon abattement. Comme une enfant, j'abandonnais mes mains aux murs et aux grilles, laissais rebondir mes doigts sur les parois granuleuses, sur les portails ferreux, les couches de peinture vieillissantes des tags. Je découvrais des nuances au monde, que j'avais peut-être connue petite, que j'avais depuis longtemps abandonnée au hasard de mon attention distraite, préoccupée par les urgences d'une vie d'adulte, par les préoccupations sérieuses d'une existence qui n'avait pas le temps de s'attarder sur ce genre de détails. Je le constatais, sans rancœur ni jugement. Mes pas, sans que je ne l'aie décidé, dessinaient l'itinéraire d'un pèlerinage, une géographie de notre histoire dont les étapes étaient des lieux grandis de notre passage. Grandis pour nous, enfin, pour moi. Le bistrot de nos déjeuners, le bar de nos soirées, le carrefour de notre première séparation, le parc de nos réconciliations, notre boulangerie, notre envie d'un tatouage commun, un désir que nous n'avions jamais réalisé par manque d'urgence, comme toutes ces envies que nous souhaitions réaliser un jour, qui ne possédaient pas cette dimension impérieuse des projets de vie devant lesquels le temps et les contraintes se plient. Je poussai la porte de la boutique devant laquelle nous nous étions plusieurs fois arrêtés en rêvassant au dessin que nous pourrions choisir, sur lequel nous peinions à nous entendre. Quel motif voulez-vous ? Je ne sais pas. Quelque chose qui me le rappelle sans être trop explicite. Il y a une activité que vous aimiez ? Un objet qui représente votre histoire ? C'est difficile de choisir. Surtout si ça doit rester sur ma peau. Le tatoueur haussa les épaules. Ce n'est qu'un dessin. Vous oublierez vite qu'il est là. Les autres le verront. Ils vous voient déjà. Ce sera juste une autre de vos singularités. J'appréciais sa façon de dédramatiser le passage à l'acte, sa manière de voir le tatouage comme une addition à un corps déjà marqué de traits distinctifs. Une constellation. Dis-je. Laquelle ? Elle n'existe pas, mais je peux vous la dessiner. Il ne posa pas de questions, mais je sentis qu'il était intrigué. Ou peut-être que j'avais besoin de parler. C'était notre premier rendez-vous en tête-à-tête. Il me montrait les étoiles, avec cet air très appliqué. Il me désignait les constellations et m'a indiqué celle-ci, dis-je en tapotant le papier avec mon stylo. Il a dit que ce serait la nôtre.
Et elle n'existe pas ?
Non. Je ne m'en suis rendu compte que 3 mois plus tard. Le tatoueur, avec mon accord, ajouta quelques détails à mon dessin.
Et elle a un nom ?
L'entonnoir.
Et il sembla surpris, à nouveau. Ce n'est pas hyper romantique.
Il y a une histoire. J'appréciais d'autant plus sa pudeur que je n'avais plus envie de parler. L'évocation de ses souvenirs agitait le vide et réveillait la douleur, et je dus me retenir au comptoir en fermant les yeux pour apaiser la vague de détresse. « Vous pouvez me le tatouer ?» Il fallut encore décider de l'endroit. Il me recommanda le flanc gauche, près du cœur, mais facile à dissimuler ou à mettre en scène selon mon envie. Le dermographe griffait et chauffait ma peau. Des sensations inconfortables sans être insoutenables, des sensations qui me ramenaient à l'instant présent. Je manquerais dans ma nouvelle réalité à mesure que l'artiste manquerait. La trace qu'il me gravait dans l'épiderme me rassurait. Son geste appliqué et son attention concentrée me vrillaient à la table. Je me sentais enveloppée, contenue, sans vertige. La compresse qu'il tamponnait pour éponger le sang et les débordements de l'encre m'offrait la chaleur d'un contact humain, rappelait à mon corps son appartenance au monde des vivants, à la confrérie de ceux qui respirent et souffrent, qui aiment, jouissent et ressentent la réalité incarnée. Cette communauté qui rêve, qui espère, pour qui la vie est à bâtir, les souvenirs sont à inventer et l'inédit à oser. Je n'en étais pas encore là. J'en étais loin, mais il y avait cette griffure écarlate et cette caresse de la compresse manipulée par ses doigts gantés. Et c'était déjà quelque chose. Des larmes silencieuses dévalèrent de mon visage. Je peinais à maîtriser les tressaillements de mes sanglots étouffés. Le tatoueur, ajustant sans rien dire sa prise sur mon corps, empêcha mes débordements. Il naviguait mon désarroi avec une adresse discrète. Lorsqu'il eut terminé,
après que j'eus contemplé le résultat dans son miroir et qu'il m'eût pensé, je le remerciai d'un regard appuyé. Dans ses yeux, je croisais une compassion sincère et bienveillante. Je ne poursuivis pas plus loin mon pèlerinage. La frénésie urbaine m'éreintait, les émotions m'avaient vidé. Je jetai ma ceinture dans un coin et entrepris de faire glisser ma jupe sur mes hanches. Sans m'en rendre compte, j'avais enfilé la verte, celle qui ne s'enlevait qu'en tortillant des fesses. Je sentais un regard amusé sur mon dos. « Je sais que tu es là, » dis-je au vide. « Viens m'aider. » Il ne vint pas. Son côté joueur faisait qu'il préférait regarder. Je pris le temps de faire glisser l'élastique avec des délices de lenteur sur le haut de mes cuisses. Le dermographe m'avait mis la peau en exergue et je frissonnais sous mes propres effleurements. Je l'imaginais, lui, passant ses doigts de lumière sous le tissu de mes collants, et les frissons descendaient jusqu'à mes orteils, remontaient jusqu'à la base de ma nuque. « Oh oui !» soupirai-je. « Encore une fois, avant que tu ne partes, je t'en prie. » Je laissai choir la jupe et fis un pas de côté, comme guidé par ses mains fermes que je connaissais par cœur. Il aurait collé son bassin au mien, aurait ôté mon haut avec lenteur. Je reproduisais les mouvements qui eussent été les siens. C'est mon corps qui œuvrait, mais c'est lui qui se serrait contre moi, ses doigts qui effleuraient mon ventre, ses mains qui s'enroulaient autour de mes seins, qui glissaient sur mon cou. Son calme, mon empressement, sa maîtrise, qui permettait, comme au premier jour, mon lâcher-prise. C'est lui qui me jeta nu sur le lit, qui souleva mon bassin. Je collai mon visage au drap, prêt à l'extase. Il manquait quelque chose. Où était son odeur? Je reniflai le lit. Il n'y avait que le parfum de la lessive. Le charme se rompit. Je me laissai retomber sur le matelas, prêt à abdiquer, quand un souffle d'air tiède venu de la fenêtre ouverte me caressa le dos, sécha mes joues et s'insinua entre mes jambes. J'ouvris les cuisses pour le laisser m'effleurer les lèvres. Les bourrasques se succédaient avec régularité. Ce vent caressait ma vulve avec son adresse à lui. Les mêmes mouvements, la même douceur déterminée. Je redressais les fesses pour offrir plus de peau à envelopper. Des doigts, j'écartais mon sexe. Le vent trouva le crâne chauve de mon clitoris, l'embrassa. L'agaça, l'éveilla, l'électrisa, le frotta, je ne savais plus. Ces sensations étaient irréelles de concret, caresses tangibles d'un souffle d'air. Mon bassin ondulait au rythme de ces attouchements aériens, ma respiration modulée selon mon plaisir. Les yeux fermés, c'était lui que je voyais, agenouillé derrière mes fesses, inventant de nouveaux jeux, amusé et galvanisé par le plaisir que je manifestais. Le feu s'enracinait en moi. Mon con béait du désir d'être rempli. « Prends-moi » suppliai-je. Et le vent me prit. Il se condensa en une verge à la forme de mon sexe et combla le vide qui palpitait en moi. Je me jetai à la rencontre de cette masse inespérée, poussai contre elle, m'emplis de sa rudesse. Cela fut rapide. Mon besoin était tel que je basculai vite. Quand j'eus terminé, je m'allongeai en chien de fusil. Ma main était trempée, mon corps apaisé de son manque, au moins pour un temps. Le vide du lit cette nuit serait moins insupportable. Le chemin serait long pour que je retrouve l'espoir et l'exultation, mais si je continuais à aborder chaque jour avec curiosité et enthousiasme, si je laissais le monde faire ses pas vers moi, tout finirait par aller mieux. Avant de partir, redis-moi, susurrai-je dans un demi-sommeil, en caressant la boursouflure de mon tatouage, raconte-moi l'histoire des âmes. Dans un souvenir ou un rêve, où est la différence? Il se serra contre moi, le doigt pointé vers l'espace, et prit sa voix posée des moments sérieux. Depuis l'origine de l'univers, L'espace est rempli d'âmes qui n'ont qu'un but, s'amuser et apprendre, ce qui revient au même. Un de leurs jeux préférés, c'est de prendre un corps et elles qui sont des filles de l'infini, libres des contraintes du temps et de l'espace, de vivre une existence finie. Elles s'extasient de ces corps qui, séparés du monde, peuvent le toucher, et de ces peaux qui peuvent sentir la caresse du vent, la caresse d'autres peaux, et le feu d'artifice des émotions qui naissent d'une vie mortelle. Mais les places sont limitées pour s'incarner, et il y a ces files d'attente à l'entrée des planètes. Chez nous, ajouta-t-il en traçant une figure sur le ciel étoilé, elle passe par là, regarde, entre les étoiles de cette constellation. En haut du vase, on retrouve toutes les âmes candidates à l'incarnation, et en bas, âme par âme, elles sont envoyées sur Terre pour le temps qu'elles ont choisi. Et cette constellation, on l'appelle l'entonnoir. Voilà, c'était la nouvelle d'Anaëlle Verdier qui s'appelle Constellation. En fait, au départ, je voulais vous lire juste un extrait de cette nouvelle, mais je la trouve tellement belle, je sais pas, il y a quelque chose qui me touche, qui me touche, vraiment, profondément. Je suis toute émotionnée, là. Allez, on va changer d'ambiance complètement. Et je vais vous lire un extrait. Je ne pourrais pas vous lire en entier, parce que sinon on va avoir un podcast qui va durer une heure. Je vais vous lire un extrait de la nouvelle de Céline Saint-Charles qui s'appelle « En odeur de sainteté ». Vous allez voir, rien à voir. Changement d'ambiance, je vous laisse découvrir, c'est parti, En odeur de sainteté de Céline Saint-Charles. Rien ne changeait jamais. Les heures pareilles à des semaines, et les semaines qui s'étiraient comme des années. L'odeur caractéristique des couloirs, mélange de choux bouillis et de javel, tenace, qui s'infiltrait dans les narines et se fixait sur les muqueuses. Impossible de s'en débarrasser. Et c'est dimanche. Passer à se cacher dans sa chambre pour ne pas assister une fois de plus aux joyeuses retrouvailles des familles, aux embrassades dégoulinantes d'hypocrisie, aux mouchoirs d'une propreté douteuse tamponnés sur les yeux larmoyants. Ces étreintes forcées, Arlette les avait en horreur. Comment les vieux faisaient-ils pour ne pas voir la répulsion des enfants qu'il fallait pousser de force dans les bras des ancêtres? Au moins elle, sans famille et sans descendance, elle n'avait pas à subir ces humiliations hebdomadaires. Les autres, ceux du dehors, qui croquent la vie à pleines dents, venaient, s'attardaient juste le temps de prétendre savourer l'infect café et s'en repartaient bien vite. Trois petits tours et puis s'en vont. Ah, tu comprends, mamie, les embouteillages. Allez voir du gamin, papy. La pluie, la neige, la chaleur. Un de ces jours, il finirait par invoquer une invasion zombie. Il tardait à Arlette que la mort la prenne et l'emmène loin de tout ça. Loin des flatulences, des démences précoces et des dentiers mal chaussés de ses compagnons d'infortune. Un pied dans la tombe, l'autre dans une pantoufle. Équilibriste malchanceux et sans argent qui avait échoué dans cette maison de retraite pour petites gens. 7 ans qu'elle moisissait là, sans que son corps fatigué acceptât de lâcher prise. 7 ans à faire les yeux doux à la faucheuse qui la dédaignait à chacun de ses passages. Toujours alerte, avec toute sa tête, Arlette assistait impuissante à la déliquescence des organismes et des esprits, voyait ses voisins crever les uns après les autres. Fort heureusement, elle n'avait jamais commis l'erreur de s'attacher. Oh, elle ne portait pas la responsabilité de son indifférence sur ses seules épaules. La guerre, d'abord, qui avait emporté son fiancé, envoyé au STO en Allemagne. « Mon Arlette, ma douce, mon aimée, jure que tu m'attendras », lui avait-il demandé avant de partir entre deux gendarmes. Le moyen de refuser dans de telles conditions, sans passer pour une sans cœur devant tout le village. Je te le jure, Armand. Ainsi fut scellé son sort. Elle patienta, mais jamais il ne rentra. La libération, puis l'armistice vinrent et s'enfurent, sans signe d'Armand. La moindre des corrections étant de lui rester fidèle, Arlette se morfondit encore 5 ans jusqu'à ce que la famille de son promis renonce et le fasse déclarer décédé. Arlette frôlait alors les 30 ans, encombrée d'une virginité qui n'était plus à la mode dans la folie frivole de l'après-guerre. Trop fière pour le reconnaître, elle refusait les galants de peur qu'ils se moquent de son inexpérience. Personne ne la touchait, jamais. Empotée, peu au fait des pratiques, elle n'osait pas se donner du plaisir, de crainte de mal s'y prendre, de se blesser peut-être, ou pire, d'être damnée. Elle se contentait des émois légers provoqués par la caresse des épis de blé dans les champs, levant haut sa jupe pour les laisser effleurer l'intérieur de ses cuisses. Parfois, à la belle saison, elle se dévêtait au bord de la rivière, les sens en alerte à l'idée délicieuse d'être épiée par un paysan de passage, et entrait dans l'eau toujours fraîche. Elle se tenait debout, jambes un peu écartées. Les poissons venaient téter sa peau offerte, rassurée par son immobilité. Elle frissonnait, sans vraiment savoir si c'était de froid ou d'excitation. Quand elle avait de la chance, il se faufilait entre ses cuisses, près, aussi près, de ce que sa mère nommait le triangle du diable. Le courant titillait ses tétons, qui se dressaient avec arrogance, envoyait des flux de bien-être lorsqu'une nappe de vase en suspension glissait jusqu'à eux. Elle s'allongeait en croix sur le grand rocher plat qui faisait face au champ du Jeannot pour sécher. Le soleil léchait les gouttes une à une et les faisait disparaître d'un baiser brûlant. Des colonies d'insectes parcouraient son corps en dessinant des routes sensuelles. Elle haletait d'anticipation, espérant être enfin emportée dans un transport voluptueux qui ne venait, hélas, jamais. Dans les romans à l'eau de rose qu'elle dévorait en cachette, l'héroïne ressentait une ivresse charnelle au moindre effleurement, criait sa jouissance avant même d'être totalement dévêtue par le beau ténébreux qu'il avait enlevé. Pas Arlette, ce n'était pas une fille de la terre pour rien. Elle sentait confusément qu'elle avait besoin de plus que ces préliminaires frivoles offerts par la nature, aussi agréables qu'ils fussent. Elle rêvait la nuit de grandes mains calleuses qui trituraient ses seins, les englobant tout entiers, de genoux puissants qui s'insinuaient entre ses cuisses plus que coopératives, d'une langue dardée vers le secret de son intimité. Dans son sommeil, elle gémissait. Mais le songe s'interrompait invariablement au moment précis où elle allait atteindre l'extase. Forcément, son cerveau ne savait comment présenter quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Au matin, Arlette feignait d'ignorer sa culotte trempée, se répétant qu'elle se moquait de tout cela, qu'elle était pure, bien au-dessus de ses considérations temporelles. Elle pouvait s'enorgueillir de n'avoir toujours que des péchés véniels à murmurer à confesse. Un jour, le père mourut, puis la mère. Arlette s'étourdit dans le labeur, seule, pour faire tourner la ferme, secrètement soulagée de ne plus avoir à entendre leurs soupirs et leurs cris rauques de bêtes en rut. Jusqu'au bout, ils avaient continué à forniquer, longtemps, souvent. À leur âge, de telles activités lubriques ne se justifiaient plus. La concupiscence, jamais fanée de ses parents, la troublait. Une petite voix en elle chuchotait lascivement. « Dire que tu aurais pu être comme eux, tu es de leur sang, le même feu court dans tes veines. » À près de 50 ans, elle s'éveilla une nuit d'été, dérangée par un orage violent qui se déchaînait dehors. Un volet claquait quelque part avec une irrégularité sauvage. Arlette se souvint brusquement qu'elle n'avait pas fermé le haut de la porte à 2 vantaux du poulailler. Tout serait inondé et elle préférait encore affronter la pluie battante plutôt que d'avoir à pelleter la paille détrempée le lendemain. Sans plus réfléchir, Elle enfonça ses pieds nus dans des bottes de caoutchouc et sortit en chemise de nuit. Elle n'avait pas fini de traverser la cour qu'elle dégoulinait, le fin vêtement de coton épousant ses formes généreuses. Est-ce l'atmosphère saturée d'ozone qui la fit basculer? Le sentiment de danger? Le frottement du tissu sur ses tétons? Elle était bien en peine de répondre. Une soudaine frénésie l'envahit. Un appétit monstrueux menaçant sa raison. Elle s'adossa contre le mur du poulailler, les talons bien calés dans la boue, les genoux légèrement fléchis. Avec une urgence qu'elle ne maîtrisait pas, elle arracha son sous-vêtement grisé par les lessives et coinça sa chemise sous ses aisselles. Elle éloigna ses genoux l'un de l'autre autant qu'elle put, afin de présenter sa vulve à l'averse. Le contraste entre le feu qui irradiait de ses lèvres palpitantes et l'eau glaciale la fit octer d'un délice mêlé d'inquiétude. Pour la première fois, elle autorisa un index timide à glisser aux abords de la zone interdite. Son corps répondit avec une virulence qui la surprit. Une vague de chaleur parcourut son épine dorsale, une prescience des félicités à venir. S'enhardissant, Arlette se servit de son autre main pour gentiment ouvrir l'accès, où son doigt s'empressa de s'introduire. Il rencontra presque par hasard une excroissance charnue qui réagit vivement au contact. Un grognement rocailleux monta des profondeurs de son ventre, tandis que naturellement l'index trouvait le rythme et l'intensité pour stimuler la zone. La protubérance se gonfla et des vagues brûlantes firent trembler les jambes d'Arlette. Elle se sentait au bord d'un précipice inconnu, prête à s'y jeter. Elle n'avait pas peur, certaine que sa chute ne serait pas douloureuse. Bien au contraire. « Oui, oh oui » cria-t-elle, affolant les volatiles derrière le mur. Au moment où la jouissance allait s'emparer d'elle, un éclair monstrueux s'abattit sur la grange, expulsant la porte à 10 mètres de là dans une brassée d'étincelles. Arlette hurla. Ses mains quittèrent son entrejambe pour se joindre en prière. Elle tomba à genoux dans la boue et se mit à prier. « Oh Seigneur, pardonnez-moi, j'ai péché. Je ne suis pas digne de votre amour. Oh Seigneur, merci de m'envoyer un signe de votre courroux. Merci de me donner la chance de retourner dans le droit chemin. » Honteuse, elle demeura toute la nuit au même endroit, indifférente aux éléments qui s'acharnaient sur elle, implorant Dieu. Je m'arrête ici. C'est donc un extrait de la nouvelle de Céline Saint-Charles qui s'appelle « En odeur de sainteté ». Alors, la première expérience d'Arlette par rapport au plaisir charnel, elle a 50 ans, c'est la première fois qu'elle se touche, et cet éclair monstrueux qui stoppe tout. Qu'est-ce qui va se passer? Arlette connaîtra-t-elle enfin le plaisir? Coincée dans sa maison de retraite? Je ne vous en dis pas plus, mais cette nouvelle est succulente et je vous conseille vivement d'aller la lire sans plus tarder. Alors justement, pour aller découvrir, relire Constellation, lire la fin de En odeur de sainteté, et puis découvrir toutes les autres nouvelles qui composent le recueil de nouvelles érotiques du prix de la nouvelle érotique édition 2019, je vous ai mis tous les liens sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Il faut savoir que ce prix de la nouvelle érotique, ce recueil, vous pouvez soit vous l'offrir en version papier, il est au prix de 12 €, si je ne m'abuse, soit vous pouvez aussi l'avoir en version numérique et les avocats du diable le mettent à disposition gratuitement. Donc la version numérique du prix de la nouvelle érotique est toujours gratuite, ce que je trouve génial parce que vraiment le but des avocats du diable, c'est de promouvoir la littérature érotique. C'est pour ça qu'ils organisent ce prix et c'est pour ça que le recueil en version numérique est gratuit, puisque du coup, il n'y a pas de frais ou très peu de frais de mise en œuvre, contrairement à la version papier qui, là, c'est faut que ce soit payant, parce que du coup, ça coûte un peu des sous quand même le papier, donc faut bien au moins payer les frais. Alors, tous les liens vers le site des avocats du diable qui organise le prix de la nouvelle érotique, mais qui organise aussi un autre prix de littérature, c'est le prix Hemingway autour de la tauromachie. Je vous laisse découvrir ça sur leur site. Il y a aussi le lien vers, du coup, le recueil du prix de la nouvelle érotique édition 2019, papier ou numérique, donc gratuit. Et il y a plein, tous ces liens-là, c'est sur mon site, là où je présente la lecture du jour. Alors, je vous redonne l'adresse de mon site, charlie-tantra.fr. Je répète, charlie-tantra.fr. Sur mon site, vous trouverez également le lien vers mon Patreon. Patreon, c'est le meilleur moyen de soutenir les lectures érotiques de Charlie. Et oui, mes amis, les temps sont durs pour tout le monde, je le sais. Mais si, malgré tout, vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie parce que vous aimez le travail que je fais, vous aimez ce podcast qui promeut la littérature érotique et qui est totalement autoproduit, eh ben n'hésitez pas, devenez Patreon. Ça permet en fait de soutenir, c'est un mécénat mensuel. Et du coup, vous choisissez le montant du mécénat, ça va de 1$ jusqu'à... Je sais pas, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez mettre 10 000 $ par mois pour me soutenir, vous le pouvez. Vraiment, je vous jure, c'est promis. Non, sans blague. Vous avez le lien sur mon site patreon.com/charlieliveshow. Ça, c'est le lien direct. Sinon, sur charlie-tantra.fr, sur tous les articles de lecture érotique, vous avez un gros bouton me soutenir via Patreon. Et du coup, vous verrez tout. En plus... Vous avez des contreparties, hein, j'aime bien remercier les gens qui me soutiennent, donc des 5$ par mois, vous avez l'accès à des podcasts exclusifs réservés uniquement à mes Patreons. Et bien voilà, vous savez tout mes chers amis. Alors, je vous souhaite plein de courage, je vous envoie plein d'amour en cette drôle de période, hein, le confinement a repris. Soyons vivants, osons, et j'aime beaucoup le thème hein, de cette lecture que je vous ai faite, One More Time, avant qu'il ne soit trop tard. Donc, vivons, profitons, jouissons. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures érotiques, évidemment. Ciao, ciao, ciao.